Il n'y a pas d'école d'immobilier à Madagascar. Pour pouvoir transmettre à quelqu'un, il faut que j'y mette énormément de temps, énormément d'argent aussi à recruter et former quelqu'un à ce métier-là. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui sont obligées de former les personnes aux métiers qui leur sont nécessaires.
Mais les possibilités de formation d'entreprise restent limitées. À Madagascar, seul un employeur sur dix en propose à ses salariés. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
RFI, il est 4h42 en temps universel. Tout de suite, les sports. C'est avec vous, Florence Valmet, bonjour.
Bonjour Pierre.
Avec du cyclisme, la deuxième étape du Tour du Rwanda remportée hier par l'Australien Brady Gilmore.
Une étape où il remportait au sprint à Musanze et toujours pas de victoire donc pour les coureurs locaux. 3 ans de disette. Alors pour tenter d'y mettre fin, Java Innovotech, l'une des 4 équipes rwandaises en course, a fait appel à une gloire locale. Un jeune retraité, l'ancien professionnel Joseph Arirouya, grand espoir africain au début de sa carrière, disparu des radars. Il revient à 29 ans dans le costume de directeur sportif. Notre envoyé spécial, Thomas de Saint-Léger.
La silhouette s'est épaissie, la barbe est fournie, mais quand Joseph Arirouya parle, ses coureurs écoutent. Détendu, souriant, le nouveau directeur sportif est très à l'aise.
Maintenant, j'ai moins de pression. Je dois montrer aux jeunes comment ils doivent courir. J'aime bien partager mes idées, mon expérience. Quand je leur donne des conseils et qu'ils les suivent, ça me rend heureux.
Plus heureux, plus libéré peut-être que dans sa première vie vainqueur. À seulement 22 ans, du Tour du Rwanda, de la Tropicale à Missabongo, professionnel dans une équipe française, il était devenu un symbole. Le premier coureur d'Afrique noire à participer à la grande classique Paris-Roubaix. La suite sera plus compliquée. Félix Saint-Poma, le directeur sportif historique de l'équipe nationale.
Il avait la force, mais le problème c'est l'adaptation. Ça me fait drôle parce qu'il devrait être dans le peloton du Tour du Rwanda au lieu dans la voiture.
Et pourtant, le rusé Félix Saint-Poma avait détecté très tôt un vrai potentiel tactique chez Joseph Arirouya.
Il avait ses qualités d'être DS parce que je me souviens au Tour du Gabon. Et un jour, j'étais stressé, il est venu, il m'a donné du conseil. Et c'était un conseil positif qui devrait nous aider de remporter. Et puis on a remporté.
Il a été à bonne école ? Avec vous ?
Ouais. Oui, il a été mon école avec moi, ouais.
Thomas de Saint-Léger, Musanze et RFI.
Et l'étape du jour se court donc entre Musanze et Rubavu-Gisenyi, le Tour du Rwanda, qui se déroule alors que de l'autre côté de la frontière, la guerre se poursuit dans l'est de la RDC. Rappelons que Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, est sous le contrôle du M23, appuyé par le Rwanda.
Alors il y a également du football en ce moment avec la suite du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026.
3 nouvelles équipes se sont qualifiées hier pour le second tour de ces éliminatoires. L'Égypte tout d'abord, malgré le nul, 2 buts partout face au Rwanda hier lors du match retour. Les Pharaons continuent la compétition grâce à leur victoire 1-0 à l'aller. Elles affronteront le Ghana ensuite. Ça passe aussi pour l'Algérie, victorieuse du Soudan du Sud 3-0 et un score cumulé de 8-0 sur la double confrontation. Leur prochain adversaire sera le Cameroun. Enfin, le Mali poursuit son parcours après son succès 4-1 face au Gabon. Les Aigles d'âme rencontreront lors du second tour de ces éliminatoires le vainqueur du duel entre la Guinée et le Cap-Vert qui a lieu aujourd'hui à 18h TU et qui fait partie de la dizaine de rencontres programmées ce mercredi pour la dernière journée de ce premier tour des éliminatoires. Parmi les autres matchs du jour, il y a Burkina-Burundi ou encore RDC-Botswana. On retrouvera ensuite toutes les équipes qualifiées en octobre prochain pour le second tour de ces éliminatoires de la CAN féminine 2026.
Et merci à vous Florence Valmet pour les sports et merci d'écouter RFI. Nous sommes le mercredi 26 février 2025.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
Et à la une de l'actualité, un accord trouvé entre Kiev et Washington sur un accès américain aux minerais de l'Ukraine. Le président Trump parle d'une très grande affaire et évoque une visite de son homologue Volodymyr Zelensky vendredi à Washington pour signer le texte. De leur côté, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne s'entretiendront aujourd'hui par visioconférence. Après la rencontre d'Emmanuel Macron avec Donald Trump lundi, les Européens insistent sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine dans les négociations avec la Russie. Un autre accord confirmé par le Hamas au Proche-Orient. notamment accord sur la libération des 602 Palestiniens qui devaient être relâchés samedi en échange des corps de 4 otages israéliens. Pendant ce temps, l'émissaire américain Steve Witkoff affirme qu'Israël envoie par ailleurs une délégation soit à Doha, soit au Caire pour négocier la deuxième phase du cessez-le-feu. Et puis des prolongations à Rome où se sont ouverts hier 3 jours de négociations pour la COP16 biodiversité. L'objectif est de surmonter la dispute financière nord-sud qui avait provoqué l'interruption brutale du rendez-vous en novembre dernier en Colombie. Rome, où l'état de santé du pape préoccupe toujours. Il reste critique mais stationnaire selon le Vatican. Le souverain pontife a tout de même travaillé hier et signé notamment un décret de canonisation pour un Vénézuélien décédé en 1919. RFI, il est 4h37 en temps universel. Et nous sommes ensemble jusqu'à 5h en temps universel. Nous allons tout de suite prendre la direction de l'Afrique du Sud, la première économie du continent qui n'est pas épargnée par le fléau qu'est la pollution plastique, des déchets collectés chaque jour par près de 90 000 pickers, ces collecteurs de plastique informels et en situation précaire. Ils sont pourtant indispensables et permettent un recyclage de près de 90% de ces emballages plastiques. Des déchets recyclés qui trouvent parfois une seconde vie dans des ateliers d'art. Rencontre avec Moutla Mojapelo, sculpteur autodidacte qui n'utilise que ce plastique des rues. Valentin Hugues a poussé la porte de son atelier au cœur de Johannesburg.
Parfois, quand je me sens seul dans mon atelier, j'écoute de la musique traditionnelle tsonga. Elle dit « Nos maisons n'ont pas été construites par une seule personne, c'est un travail d'équipe. Et c'est pareil avec mes sculptures, c'est un travail collectif et il faut mentionner tout le monde. »
Mentionner par exemple les collecteurs de plastique des rues à qui Moutla Mojapelo achète ses matériaux pour confectionner ses sculptures.
« J'achète le plastique à ces gars. Maintenant, ils savent que j'ai besoin de ces matériaux pour mon travail. Ici, on est sur ma terrasse, avec une belle vue sur toute la ville. Moi, je ne vois pas des immeubles, mais bien des sculptures. Regardez ici, par exemple. Il y a la bouche, le nez. C'est sur cette terrasse que je fais fondre le plastique. Ensuite, je le mets dans un moule. Là, par exemple, je fais une main. »
Donc une chaise cassée peut devenir une jambe, par exemple.
Il y a ce dicton qui dit « Les ordures d'un homme peuvent être le trésor d'un autre. » Et c'est mon trésor. Je leur donne une seconde vie.
Alors que la pollution plastique mondiale pourrait dépasser le milliard de tonnes d'ici 2040, Moutla agit à son échelle et grâce à l'art.
Il y a du plastique dans les océans, il y a du plastique partout. Alors j'essaye de nettoyer un peu. C'est du recyclage.
Et le résultat, c'est par exemple cette sculpture à taille humaine au centre de son atelier, qui symbolise son parcours semé d'embûches.
Vous voyez ici, le plastique se décolle de mon corps. Ça symbolise la peur. Tous les mots négatifs qu'on m'a dit, Moutla, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas fait d'école, et dont je me libère, parce que je savais que j'y arriverais.
Je m'appelle Sophie. Là, on nettoie les lettres qu'il a posées sur sa sculpture pour écrire tous les mots négatifs de ceux qui ne croyaient pas en lui. Avec le temps, il leur a montré qu'il avait beaucoup de talent et ça me rend heureuse.
Après des débuts difficiles dans son village au nord du pays, aujourd'hui Moutla est installé dans une résidence d'artiste de Johannesburg, expose dans de nombreuses galeries et vit de son art.
Écoutez cette musique, elle dit qu'on a été envoyé ici pour délivrer un message. Le mien, c'est « Soyez vous-même ».
Un art fait de rêves et de plastique. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et ce reportage est bien sûr à retrouver en intégralité sur RFI.fr.
Nouakchott, 103.3 FM.
Aide au développement en crise et taux d'intérêt au plus haut, c'est le double défi auquel sont confrontées les entreprises africaines ces derniers mois. Leur développement est pourtant capital pour permettre la création d'emplois et de richesses. Alors les entrepreneurs se tournent vers des fonds privés à impact qui cherchent à développer leurs capitaux, quitte à allier financement public et privé. Afrique Économie est aujourd'hui signé par Charlotte Cosset.
Il y a 15 ans, Sidi Khalifou reprend l'entreprise familiale CDS, spécialisée dans l'eau et l'énergie en Mauritanie. Elle est alors composée d'une poignée de salariés et fait un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros.
J'avais une vision claire sur son développement.
Mais l'ambition ne suffit pas.
Premier frein, il n'y a pas de fonds. Et le capital est réduit, les banques ne donnent pas de crédit de façon suffisante. Et on n'avait pas suffisamment d'expérience aussi. IEP avait cette valeur ajoutée d'avoir les deux. Et donc, je peux dire qu'ils nous ont accompagnés très, très bas pour se structurer, pour lancer nos premières commandes, pour recruter nos premières ressources humaines, les former. Et ça, c'est fondamental dans la croissance d'une entreprise.
L'entreprise compte désormais une cinquantaine d'employés et porte un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros. Dès le début, investisseurs et partenaires soutiennent l'entreprise de Sidi Khalifou. IEP, un fonds d'investissement à impact dédié au financement et à l'accompagnement des start-up et PME en Afrique subsaharienne. Sébastien Boyer, son co-directeur.
Ce sont des pays dans lesquels il y a une dynamique entrepreneuriale extrêmement forte, beaucoup d'opportunités. Ce qui manque, c'est la capacité à financer ces entrepreneurs. Et donc, nous, on pense qu'en apportant des fonds et en choisissant des entrepreneurs qui ont cette capacité à créer des emplois, à générer des impacts, nous pouvons aussi générer de la valeur économique et financière pour nos investisseurs.
Un pari qui fonctionne malgré la perception du risque accru qui entoure l'investissement sur le continent. Des acteurs publics comme la Banque européenne d'investissement soutiennent ces choix. Elle vient de signer un nouvel engagement de 15 millions d'euros. Ambroise Fayol, le vice-président de la BEI.
L'une des actions qu'on a, c'est de financer des fonds d'investissement qui eux-mêmes vont financer des actions qui nous semblent prioritaires. Et ce qui nous semble plus important, c'est pas la nature publique ou privée du promoteur d'un projet, c'est plutôt ce qu'il veut faire de l'argent qu'on va lui donner. En l'occurrence, ce que veut faire cet investissement, c'est de développer des actions qui sont particulièrement importantes pour nous dans des secteurs aussi charnières que l'atténuation et l'adaptation du changement climatique et les problématiques de l'égalité homme-femme.
Grâce à cette levée de fonds, IEP prévoit de soutenir une quinzaine d'entreprises sur le continent, avec à la clé la création de 4000 emplois. Sidi Khalifou, lui, souhaite poursuivre le développement de son entreprise dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Charlotte Cosset. Et nous en parlions, le secteur de l'aide au développement reste sous le choc. Les effets du coup de massue de la décision de Donald Trump de suspendre USAID continuent de se faire sentir. Et ce matin, justement, les 529 banques publiques de développement que l'on compte dans le monde se retrouvent au cap en Afrique du Sud. Sommet que préside le français Rémi Rioux, qui est le directeur général de l'Agence française de développement. Il est notre invité et Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé si la solidarité internationale n'était justement pas en crise.
Alors, je crois que tout le discours de l'aide, en fait, est maintenant en train de s'effacer. Et je crois, et c'est très précisément ce que nous faisons ici à FIX, à Finance en commun, que nous sommes en train de passer dans un discours d'investissement solidaire et durable. C'est le mot même du président de la République, Emmanuel Macron, depuis des années. Et ça veut dire quelque chose, évidemment, un investissement, ça veut dire qu'on croit dans les pays dans lesquels on intervient, au point d'y investir. Et puis, investissement, ça veut dire qu'on en attend, bien sûr, un retour. Donc oui, vous avez raison. Je crois que ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, c'est un choc, évidemment, et c'est aussi un signe que tout ce monde du financement du développement est en train de se transformer avec le changement du monde et les attentes de nos populations. Je crois que nous l'avons capté. Nous l'avons depuis 5 ans même mis en forme. Nous l'organisons avec ce sommet ici au Cap.
Et les 40% que les Américains apportaient dans l'aide humanitaire mondiale, comment ce vide va-t-il être comblé alors?
Ben ça, c'est une question qu'il faut poser, bien sûr, au gouvernement, d'abord, de tous les pays du monde. Donc c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici avec le G20. Il est un petit peu tôt pour répondre, mais je tiens à dire quand même que la place de l'Europe dans ce monde du financement du développement, c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Puis après, sur les financements de la France, je vous renvoie simplement aux propos du Premier ministre François Bayrou, qui, dans son discours de politique générale, a indiqué bien sûr que toutes les politiques publiques devaient contribuer au rétablissement des comptes publics, mais qu'il examinerait à partir de 2025 comment reprendre une trajectoire positive pour le financement du développement.
Un entretien retrouvé en intégralité à 5h45, temps universel. Vous allez retrouver la musique, on retrouve tout de suite Maman au Gondwana. Maman, dans au Gondwana, justement, on parle de plus en plus de résilience.
Oui, en très très démocratique république, les mots sont très importants et on peut dire sans peur de se tromper qu'au Gondwana, tout n'est que mots, paroles, parlotte, blabla. Comme dit le poète, dans ce pays, ben on se paye de mots ou, comme le résume si bien le Gondwanais lambda, les mots remplissent les oreilles mais pas les ventres. Paradoxalement et contre toute attente, dans ce pays, la magie des mots marche tout le temps et depuis très longtemps. Chaque époque est colorée, pimentée ou sucrée par un mot qui rythme alors toute la vie quotidienne du Gondwanais lambda parce que ce mot est craché en boucle dans les haut-parleurs médiatiques, dans les discours et les slogans, sur les banderoles et les professions de foi. Depuis quelque temps, le mot qui fait danser les gens en très très démocratique république, le mot qu'on remixe sur tous les rythmes et qu'on cuisine à toutes les sauces, c'est la résilience. On l'entend partout, la résilience tout le temps, au point où le Gondwanais lambda se demande si la résilience n'est pas un membre de sa famille. À force de la voir tout le temps, accolée au blason de la très très démocratique république, il faut croire que la résilience est devenue la richesse numéro 1 du Gondwana. Bah oui, elle a remplacé le pétrole, le café, le cacao, l'uranium ou le coltan comme matière première vedette de la très très démocratique république. Le gouvernement brandit la résilience du peuple gondwanais comme un flambeau, comme il brandissait les énormes richesses du sous-sol gondwanais. Tous les ministres passent de plateau TV à studio radio, de tribune des bailleurs de fonds aux rencontres avec les ONG, avec cet argument fort, répété à l'envi. Le peuple gondwanais est résilient. Il fait preuve d'une résilience à toute épreuve. La preuve, ben le gondwanais lambda est félicité partout pour sa résilience sur tous les tons. Résilient est devenu son deuxième prénom au gondwanais lambda. Il l'accompagne partout, dans les flash info, les campagnes publicitaires, les promesses électorales, les demandes d'aide internationale, partout. Mais attention, tout ceci se fait à l'insu du plein gré du gondwanais lambda. Hein. C'est les autres qui disent que le gondwanais lambda est résilient, alors qu'il n'a rien demandé, lui. Il ne se promène pas dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, ou là-bas sur les pistes défoncées du fin fond du Gondwana, en se répétant à lui-même je suis résilient, je suis résilient. Mais le gondwanais lambda finit quand même par se rendre compte que même si la plupart de ces belles personnes habitent ici au Gondwana avec lui, eh ben, il n'y a que lui qu'on qualifie de résilient. C'est là qu'il réalise que la résilience, eh ben, c'est juste pour les pauvres, pour les gens d'en bas de en bas comme lui. C'est eux qu'on félicite d'être résilients. Parce que la résilience, c'est seulement pour ceux qui vivent dans la galère. C'est vrai, quoi. T'as déjà entendu quelqu'un parler de résilience à propos des riches, à propos des en haut de en haut? Ils n'ont pas besoin d'être résilients, eux, puisque tout va bien pour eux tout le temps. À demain.
Maman, pour le dernier mot de cette deuxième édition d'Afrique Matin, Olivier Roux était à la réalisation, Sébastien Duhamel à la rédaction en chef. Dans un instant, RFI Matin, avec vous, Clotilde Dumay.
Oui, bonjour Pierre Baudias, RFI Matin. 3 heures d'informations à suivre avec toute la rédaction des journaux, des reportages, des invités, des chroniques. On va notamment parler de cet accord qui a finalement été trouvé entre Israël et le Hamas pour relâcher plus de 600 prisonniers palestiniens.
Appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
Attaqué à 4 reprises depuis le début de l'année, le Bénin est confronté à la menace djihadiste venant du Niger et du Burkina Faso, comme les autres états côtiers du Golfe de Guinée. Comment le pays peut-il relever le défi sécuritaire? Quelle stratégie faut-il privilégier? Quelle coopération régionale et internationale?
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
étoiles, lune, planète, galaxie, comment débuter en astronomie et initier les enfants même sans un équipement sophistiqué.
Demain,
la baisse de la natalité devient un phénomène mondial. Faut-il s'inquiéter d'un futur sans enfants ou au contraire en saisir les opportunités?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.